Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. C'est l'épice la plus consommée au monde, nous rappelle l'épicière Sylvie Jobin-Lemoal, à tel point qu'elle est devenue banale. On ne la sent plus, on ne la goûte plus. Et pourtant, des hommes sont morts pour avoir essayé de rapporter cette perle sur la table des rois. Ils ont traversé les océans et les déserts pour la vendre ou l'acheter à prix d'or. Et des cités se sont fait la guerre pour en posséder le contrôle. Elle aurait même été le prétexte du premier tour du monde en bateau, à une époque où elle avait plus de valeur que l'or lui-même. Des villes ont été construites et d'autres détruites pour son commerce. Et puis voilà, aujourd'hui, on en saupoudre notre omelette sans même y penser.
Pour se faire une idée approximative de la valeur insensée qu'atteignent les épices, qu'on veuille bien se rappeler qu'au début du XIe siècle, ce même poivre que l'on trouve aujourd'hui à profusion sur toutes les tables et qu'on gaspille ni plus ni moins que si c'était du sable, se vendait au grain et valait son pesant d'argent. Il présentait une telle stabilité monétaire que beaucoup d'États et de villes comptaient avec lui comme avec un métal précieux. Il permettait d'acquérir des terres, de payer une dot, d'acheter un droit de bourgeoisie. Beaucoup de princes et de cités établissaient leurs tarifs douaniers par quantité de poivre. Et lorsqu'au Moyen-Âge, on voulait dire d'un homme qu'il était immensément riche, on le traitait de sac à poivre.
Extrait du Magellan de Stephen Zweig, lu par l'ami Matteo Caranta. Nous allons donc essayer de retrouver ce midi la puissance, la noblesse et le goût du poivre en compagnie de nos deux invités, deux épicières, deux artisanes. Sylvie Jobin-Lemoal, dont j'ai lu quelques extraits du livre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Votre livre, c'est Le Petit Traité du Poivre qui est apparu en 2019 aux éditions Le Sureau. Il a été élu fin 2022 meilleur livre culinaire du monde dans la catégorie épices parmi 227 en lice. Donc bravo. Vous êtes par ailleurs, Sylvie Jobin-Lemoal, la fondatrice en 2010 de la boutique des épices à ma guise à Ancenis et entre Nantes et Angers, et membre depuis 2015 du collège, c'est d'ailleurs la boutique je crois, avec votre boutique, membre du collège culinaire de France. Et puis on ne peut pas faire une émission sur les épices sans la famille Rollinger, donc j'ai invité Mathilde Rollinger, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Et merci beaucoup d'être avec nous également. Vous sélectionnez les épices, les herbes, les algues à partir desquelles vous composez des mélanges en poursuivant ainsi le travail initié par votre père Olivier dans la maison des épices Rollinger qu'a fondé votre père. Vous êtes maintenant la directrice de cette maison épices Rollinger. Vous êtes venues toutes les deux. Vous avez transporté la boutique chacune. J'avais dit, bon, prenez une petite sélection, je ne sais pas, deux, trois poivres. Et ben, nous voilà avec les deux boutiques, des épices à ma guise et des épices Rollinger. Merci de cette générosité. Mais je pense que nous ne pourrons pas parler de tous les poivres. Parlons d'abord de votre métier, puisque vous vous dites toutes les deux productrice artisane à la source des épices et créatrice assembleuse d'épices. Sylvie Jobin-Lemoal, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, vous voyagez en choisissant des producteurs et des productrices dans chaque pays où vous allez. Et puis, vous participez à la cueillette, vous participez à l'équetage, au séchage. Racontez-nous.
J'ai eu la joie et vraiment l'occasion de travailler dans une plantation familiale de poivre parce que je voulais vraiment comprendre comment pousser la plante et comment était récoltée et comment on obtenait le goût en fait du poivre, parce qu'on peut sélectionner sur une matière finie, mais ça me suffisait pas. Donc on a décidé avec mon mari d'aller faire une dizaine de jours de cueillette de poivre traditionnelle en Inde. Et là, ça n'a pas été très très simple parce que la liane pousse très haut. C'est dans une forêt tropicale, donc qui fait 10 degrés le matin et 30 degrés l'après-midi. Taux d'humidité assez élevé. Et en plus, comme c'est une cueillette traditionnelle, on portait nos bambous qu'on devait mettre sur l'arbre qui supporte, le tuteur qui supporte le poivre. Et je me suis aperçue que mon centre de gravité était assez bas. J'ai eu beaucoup de difficultés physiques à grimper en haut de mon poivrier, mais c'est merveilleux, quoi. Une fois qu'on est là-haut, c'est absolument superbe, c'est vraiment superbe. Et on comprend comment la plante pousse, c'est ça qui est important.
Mathilde Rollinger, hein, même expérience?
Oui, plusieurs expériences, effectivement, peut-être celles les plus marquantes en Inde, hein, qui est le berceau, pays berceau du poivre Piper Nigrum. Et c'est vrai que l'atmosphère est un petit peu comparable à nos vendanges. Il y a une espèce de joyeuseté qui flotte dans l'air, malgré la difficulté du travail, hein, parce que comme vous l'avez souligné, effectivement, on est en hauteur sur des échelles plus ou moins précaires. Et puis au Sri Lanka, où j'étais il y a quelques mois, où là on est au cœur aussi d'une jungle. C'est une liane qui aime les jungles tropicales. Et donc au centre de l'île, il y a des poivriers qui atteignent des âges vénérables de trentaines d'années et qui donnent toujours des baies avec un goût incroyable.
Comment choisissez-vous, Mathilde Rollinger, les producteurs, les productrices et donc les poivriers avec qui vous travaillez? Je pense que l'agriculture biologique est assez importante dans le cas des épices Rollinger. Vous choisissez pas n'importe quel arbre, oui, dans n'importe quel endroit, évidemment.
Bien sûr, il faut évidemment que tout, en termes de parfum, de goût, d'apparence, que tout nous convienne, évidemment. Il y a aussi le côté humain avec qui on souhaite travailler et les conditions de travail qui sont importantes, que les cueilleurs soient bien payés. Pour avoir un poivre de très grande qualité, il faut accepter de mettre le prix. Et ça, je ne lésine pas, c'est-à-dire que je prévois avoir la qualité quitte à payer cher, mais au moins avoir quelque chose d'exceptionnel. Parce qui dit exceptionnel dit... voilà, un séchage qui va être fait au soleil et non au four, donc qui va demander beaucoup de manutention. Donc il y a le côté humain et puis environnemental, vous l'avez souligné, des cultures certifiées agriculture biologique ou raisonnée.
Parce qu'il y a beaucoup de poivres, en particulier du Vietnam aujourd'hui, qui sont remplis de pesticides, hein, donc il faut faire attention.
Oui, alors je pense qu'il ne faut pas caractériser par pays. Après, à l'intérieur de chaque pays, chaque origine, les personnes travaillent différemment. Par exemple, au Vietnam, il y a une île Phu Quoc où certaines poivrières, plantations travaillent sans produits chimiques. Donc, et en Inde, certaines personnes vont pouvoir utiliser des produits chimiques. Donc, c'est vraiment très différent d'une famille de producteurs à l'autre, d'une coopérative à l'autre. C'est très différent. On ne peut pas généraliser.
Bien entendu.
Voilà.
Alors, Sylvie Jobin-Lemoal, on commençait cette émission en disant qu'effectivement, on ne le sentait plus, notre poivre, on ne le goûtait plus. C'était devenu une épice banale, la plus consommée du monde. Mais en fait, allez hop, on fait un petit tour de moulin et puis on ne se rend même plus compte de ce qu'on sent et de ce qu'on goûte. Et à vrai dire, Magellan l'a dit avant nous, dans cette lecture de Stephen Zweig. Et pourtant, Dieu sait si le poivre a été, comme vous le rappelez dans votre petit traité du poivre, l'or noir. Ça a été le roi des épices pendant longtemps.
Oui, Magellan a fait le tour du monde, enfin pas uniquement, mais beaucoup.
Au XVIe siècle, pour le rappeler.
Au XVIe siècle, pardon, pour aller chercher du poivre, pour raccourcir. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de circuits courts et c'est plutôt dans une envie environnementale. Mais à l'époque, c'était circuits courts pour éviter les droits de douane et éviter les pirates, etc. Et c'est vrai que sans le poivre, le transport et l'échange de culture entre les différentes cultures, justement, n'aurait pas eu lieu.
On dit que le voyage de Magellan date du XVIe siècle et que la course au poivre, la commercialisation, ouais, avec cette idée que le poivre était une épice très riche et se vendait, ouais, à prix d'or, donc a commencé à peu près à ce moment-là. Mais vous rapportez, ouais, qu'on a des traces, ouais, dans les narines de la momie de Ramsès II, mort en 1214 avant Jésus-Christ, de poivre.
Oui, alors c'est clair que la vision occidentale de l'histoire veut qu'on ait l'impression que ce sont les Occidentaux qui sont allés en Inde chercher du poivre. Alors que c'est totalement faux. Les Indiens avaient la maîtrise de la voile, de la navigation, bien avant ça. Vers 1500-2000 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des navires et des marins indiens qui remontaient même la mer Rouge, qui est une mer qui est très très difficile à naviguer, et qui allait également en Chine. Donc l'Inde allait à gauche et à droite.
Et en Égypte.
Et en Égypte, voilà.
Égypte. Et puis c'était les Romains et les Grecs étaient complètement fous de poivre. Je crois qu'il y a un mot sanscrit pour dire le mot poivre, qui veut dire adorer des Grecs. Pour poursuivre ce que vous disiez,
ouais,
voilà.
Le transport maritime, il y avait également le transport terrestre, mais le transport terrestre était beaucoup plus cher parce que plus lent. Et en plus, les chameaux pouvaient transporter beaucoup moins de matières premières, mais le transport maritime existe depuis très très longtemps et est remonté, enfin, de l'Inde jusqu'en haut de, jusqu'au canal, enfin, au canal de Suez aujourd'hui. Et les Égyptiens avaient beaucoup de poivre.
Et aujourd'hui, les quatre pays principaux producteurs sont, je crois, le Brésil, le Vietnam, l'Inde, bien sûr, et l'Indonésie.
Au départ, c'est vrai que le grand producteur, c'était l'Inde, et puis aujourd'hui, il est à la quatrième place. Et les premières places sont disputées effectivement par le Vietnam, le Brésil. Selon les années, les récoltes, ça bouge, mais l'Inde a été détrônée. Après, en termes de qualité de poivre, de terroir, on trouve certaines, comme c'est le pays berceau, on trouve des variétés botaniques à l'intérieur du poivre noir, on va y venir, qu'on trouve uniquement en Inde. Et c'est ça qui reste extraordinaire et unique au monde.
Oui, parce qu'il faut préciser une chose, toutes les deux, vous avez parlé de la liane, puisque le poivrier est une liane, une plante de la jungle, des hiboux qui peut atteindre parfois des hauteurs et des âges vénérables. Mais vous avez parlé de Piper nigrum. Donc, si nous parlons aujourd'hui de poivre, il faut préciser les choses, Mathilde Rollinger, vous dites il y a des vrais poivres et des faux poivres. Ça veut dire quoi ?
Alors, ce que j'entends, ce qu'on entend par vrai poivre, c'est la famille. Donc, c'est dans la famille des Piperacées, c'est les Piper nigrum.
Et ça veut pas dire forcément poivre noir, ça veut dire vraiment poivre.
Ça veut dire poivre. Après, à l'intérieur de ces vrais poivres, entre guillemets, on va avoir différents traitements qui vont faire qu'on va avoir un poivre noir, un poivre blanc, un poivre rouge, on va y revenir. Mais il faut les distinguer, effectivement. Alors, certains disent faux poivre. Moi, je préfère dire poivre cousin. C'est un petit peu plus...
Oui, c'est moins péjoratif.
C'est moins péjoratif. Et puis, on parle de d'autres baies, qui va être la famille d'Exilantium, d'autres pipères Borbersons. Donc, on va avoir le poivre de Sichuan, le Timur, plein d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, le sujet, il est vaste, uniquement sur les vrais
poivres.
Donc,
nous restons concentrés sur ce Piper nigrum, qui a quatre couleurs. Vous en avez donné trois, il y en a une quatrième qui est verte,
poivre vert, effectivement, cueilli tout au début, et qui va être, avoir un traitement de séchage, presque parfois de déshydratation. Et on va être au plus près du goût du poivre frais.
On dit dans l'ordre de la maturité que c'est vert, noir, blanc, rouge. Sylvie Jobin-Lemoal.
Oui, c'est comme une grappe de groseille, en fait, la grappe de poivre. Et au début, elle est verte. Donc, quand on le cueille et qu'on le met à sécher, en fait, par oxydation, le grain devient noir. On attend un petit peu de maturité et on le cueille quand il est orange-rouge. Après, ça dépend aussi des producteurs et des régions du monde. Et quand on le lave, on ne garde que la graine blanche au milieu. D'ailleurs, quand vous passez au moulin un grain de poivre noir, vous voyez bien que à l'intérieur c'est blanc et tout autour c'est noir. Et en fait, quand on attend un peu plus de maturité et qu'on enlève le péricarpe, l'entourage, on ne garde que la graine et c'est ça qui donne le poivre blanc.
Et le poivre gris alors qu'on trouve sur certaines tables de restaurant.
Ça, c'est une invention marketing, ça. Voilà.
Et le poivre rose.
Le poivre rose, c'est la baie rose qu'on va trouver notamment à Madagascar ou. Et là, c'est complètement une autre plante. Voilà, c'est très croquant, très léger. C'est pas. Ça fait partie des poivres cousins.
Et ben voilà, il faut clarifier les choses.
Mais il y a un poivre rouge, effectivement.
Il y a un poivre rouge.
Voilà, cueilli à ultra maturité. Où on est presque. Vous parliez de groseille, et c'est vrai qu'il y a une sucrosité. Et il y a une. Le cueilleur se livre à presque une bataille avec les oiseaux qui les adorent, ces poivres.
Et la mousson.
Rouge. Et derrière, qui sont séchés à l'ombre, contrairement au poivre noir qui va être séché en plein soleil pour atteindre ce côté noir iridé, le froissé du poivre, poivre rouge, et séché délicatement à l'ombre. C'est une opération délicate, le poivre rouge, et finalement, c'est assez rare parce que ça suppose un tri important et attendre cette maturité très avancée.
C'est le plus commun, le poivre noir, c'est le plus utilisé, c'est peut-être le plus accessible, et pourtant, il existe. Je ne sais pas, des centaines, même des milliers de sortes de poivres. J'ai fait un petit exercice avant de vous inviter. Moi, juste un petit exercice avant de vous inviter toutes les deux. Je suis allée voir sur le site des épices Rollinger, Mathilde Rollinger. J'ai vu que sur le site, il y en avait 13 d'Inde, 7 du Cambodge, 2 du Sri Lanka, 3 du Vietnam, 1 de Malaisie, 1 du Cameroun, 1 de Madagascar. Et Sylvie Jobin-Moal, je suis allée sur votre site des épices à ma guise. J'ai pas compté. Mais il y en a beaucoup, puisqu'il y a 5 pages qui sont dédiées aux poivres et aux baies. Donc déjà, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La difficulté, c'est de choisir après. Mathilde Rollinger, comment on choisit un bon poivre ? Comment savoir qu'il est bon?
Question délicate. Moi, c'est vrai que je m'intéresse au poivre. On pourrait faire la comparaison avec le chocolat, au poivre fin. C'est-à-dire qu'il faut que lorsqu'on déguste un poivre, c'est pas juste goût de poivre. Il faut qu'il y ait d'autres arômes, d'autres parfums qui arrivent en bouche. C'est ça qui va être intéressant. Eh bien, moi, je trouve que c'est l'odeur, qui doit avoir une odeur franche, pas une odeur de cave ou de poussière. Donc on le sent d'abord entier, et puis derrière, il faut le sentir aussi moulu, si possible. Moi, j'aime bien le moudre plutôt moyen, gros grain.
Ça change le goût
le goût. En fait, ce qui est rigolo, c'est que là où c'est le plus flagrant, c'est sur le poivre blanc. Ou souvent, les poivres blancs, alors soit on oscille entre le côté assez mentholé, notamment qu'on va trouver sur le poivre blanc du Campote, ou alors des parfums qui vont être plus un peu animal, un peu ferme, qui peuvent être déstabilisants. Et lorsqu'on va moudre le poivre blanc, on va perdre ce côté animal, cuir, et on va être dans des côtés peut-être un peu plus propolis, houblon, umami, totalement différents. Donc en fait, si on veut choisir son poivre, il faudrait presque non seulement le sentir entier, mais aussi moulu.
On est entre l'huile d'olive et la dégustation de vin. Hein. En effet, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précis et raffiné. Alors toutes les deux, vous vendez du poivre, par exemple, du poivre malabar. Vous dites, Sylvie Jobin-Lemoyle, que c'est le poivre par excellence, c'est l'ancêtre de tous les poivres. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce poivre malabar? Vous en avez d'ailleurs apporté.
Alors moi j'aime bien le malabar ou des variétés, on en parlera certainement tout à l'heure du malabar. Le malabar en fait c'est un assemblage de différentes variétés ou cultivars de poivre d'Inde dans la région du Kerala. Et ce que j'aime bien dans le malabar c'est son côté franc de poivre. Voilà. J'aime bien aussi le cubeb et d'autres pipeurs qui ne sont pas des pipeurs nigrum. Mais le malabar il a ce côté exact, précis. Originel, voilà, on a du poivre, on veut du poivre, on a du poivre, il y a rien d'autre, et ça c'est extraordinaire. Après effectivement moi j'ai un côté affectif avec l'Inde, donc mon palais est biaisé forcément, enfin ça c'est comme tout le monde, on aime aussi des histoires, on aime les choses qui nous raccrochent à des moments merveilleux, donc forcément on s'accroche à ça et on aime beaucoup ça. Mais j'aime bien le malabar pour ça, c'est qu'il est juste poivre précis.
Mathilde Rollinger.
Oui, le Malabar, donc c'est cette côte Malabar hein, qui est au sud du Kerala, découvert par Vasco de Gama, quand même, en 1498, comment il a contourné justement l'Afrique. Donc effectivement, il y a un côté originel et le Malabar Grey Douane est effectivement l'étalon. Et puis à l'intérieur de ce Malabar, qui va être un mélange de ces différentes espèces de pipeurs nigrum qu'on va trouver dans ces collines, avec une altitude entre 700 et 1000 mètres d'altitude, du coup qui va être le climat parfait, on va trouver différentes variétés. Et c'est vrai qu'avec les producteurs, il y a 15 ans, mon père a entamé un programme pour justement séparer les poivres, non pas par rapport à un calibre, qui va être le MG1, Malabar Grade 1, mais par rapport à ces variétés botaniques, parce que mon père, il y a 15 ans, en se promenant dans cette jungle, était avec les producteurs et disait « Mais c'est marrant, cette liane de poivrier, elle est différente, la feuille est plus large. » Et les producteurs lui ont dit « Mais c'est normal, ça c'est un panur, à côté tu as un Ila Mundi. » Et là, pour mon père, c'était une révélation. Il leur a dit « Mais il faut trier selon les variétés botaniques. » Parce que derrière, en goûtant sur la liane, ça c'est extraordinaire, c'est de goûter le poivre sur la liane, qui va être un prémisse du profil aromatique. Eh bien, ils ont des profils aromatiques différents.
C'est ici que ça sent aussi bon.
J'espère bien.
Et moi, j'espère que c'est à mon moulin à poivre que vous allez penser. Regardez, du poivre en grain, un petit tour et hop, l'arôme du poivre fraîchement moulu.
Oui, oui. Achoum!
Cela dit, on entend éternuer, mais je crois qu'éternuer, c'est pas le signe de la qualité du poivre. Au contraire, ce qui fait éternuer, c'est la pipérine du poivre, Sylvie Jobin-Lemoyle.
C'est ça, c'est que le grain de poivre, en fait, il y a la graine au milieu et le péricarpe noir autour. Et dans le péricarpe, il y a beaucoup de pipérine. Et la pipérine, c'est ce qui apporte le côté piquant au poivre. Mais ce péricarpe contient également des huiles essentielles. Et c'est ça qui va apporter le complexe aromatique de chaque grain de poivre.
Oh, parce que c'est vrai qu'on a, disons, l'idée reçue que le poivre, bah, ça apporte du piquant, puis voilà.
Voilà.
Alors en fait, ça apporte autre chose.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que ça apporte autre que le piquant?
toutes les huiles essentielles que peuvent contenir un grain de poivre. Alors, donc, on peut aller sur des arômes un peu citron, agrumes, comme aux compotes. On peut aller sur des fruits rouges, comme tous les poivrons noirs qui ont justement un peu de sucrosité, où la baie est arrivée à maturité. Et là, effectivement, on va avoir des notions de pruneaux, de fruits rouges, etc. On peut avoir des parfums de sous-bois. Et ça, ce sont les huiles essentielles. Et quand on a du mauvais poivre, ou ce qu'on appelle du poivre épuisé, parce qu'on a extrait toute la piperine pour faire des huiles essentielles de poivre pour la cosmétique ou l'aromathérapie, etc. On a un poivre épuisé, comme les olives où on a les noyaux épuisés. Et bien là, vous n'avez que le piquant. Donc le truc qui fait éternuer. Et donc si vous éternuez en sentant du poivre, c'est que ce n'est pas du bon poivre.
Là, je disais que vous aviez transporté votre boutique l'une et l'autre. Mathilde Rollinger en a moulu trois devant elle. Elle n'a pas éternué, donc je pense que ce sont déjà gages de qualité du poivre. Mais quand on entre dans une boutique comme les Épices à ma guise ou les Épices Rollinger et qu'on dit, bon voilà, je voudrais du poivre, vous dites quoi? Vous dites du poivre pour de la salade, du poivre pour des poissons, du poivre pour la viande. Que répondez-vous aux gens pour qu'ils sachent vers quel type de poivre aller, Mathilde Rollinger? Par exemple, en prenant les trois que vous avez moulus.
Déjà, c'est qu'est-ce que la personne aime cuisiner? Si la personne est plutôt aime plutôt les viandes ou les légumes. Si ensuite l'autre question c'est est-ce que elle a l'habitude du poivre? Ouais. Est-ce qu'elle aime les poivres? Il y a des personnes où le poivre fait un peu peur. Ouais. Donc c'est différent en fonction de ces deux questions. Déjà on arrive à orienter et puis aussi en faisant sentir et tout de suite. C'est un petit peu comme on choisit un parfum. Est-ce qu'on se sent en relation? On a une petite émotion. Au contraire, on n'aime pas, en fait. Donc, c'est un petit peu au fil d'une discussion, d'un échange, où la personne va révéler ce qu'elle aime cuisiner. Donc, c'est vrai que si elle est très légumes, très légumineuse, etc., je vais lui proposer le poivre rouge. Parce que dans le poivre rouge, par rapport au poivre noir, on peut avoir une première, selon les origines encore, une première sucrosité. Et puis avoir une espèce d'habillage aromatique qui va être encore un peu plus ample. Je trouve qu'il va très bien avec les légumes. S'il va être très viande, je vais lui proposer du poivre noir. Ou s'il va être très amateur de... Pour le poivre blanc, faut qu'elle aime déjà la première approche avec le poivre blanc. Et puis peut-être lui faire sentir une fois moulu pour qu'elle aille pourquoi pas, sur des poissons, par exemple.
Alors à cette question, comment sait-on quel poivre mettre sur quel plat? Le mieux peut-être est de poser la question à une chef en l'occurrence, qui est avec nous par téléphone. C'est une amoureuse des poivres, ça tombe bien, Frédéric Triquet, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes la chef propriétaire de deux restaurants à Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Saison, au pluriel, qui est un petit établissement de 18 couverts. Et Poulette, un bistrot de quartier où l'on fait les choses bien, comme vous le dites, qui a ouvert en 2018. Vous utilisez le poivre quotidiennement en cuisine, mais quel type de poivre en fonction de quel plat?
Eh bien écoutez, c'est exactement ce que vient d'expliquer Mathilde Rollinger et Sylvie. J'ai fait comme tout le monde au démarrage, c'est-à-dire que j'ai pris les conseils de spécialistes. Alors en l'occurrence, c'était Sylvie Jobin-Lemoël, et j'ai commencé à essayer de connaître et de comprendre les poivres par ses suggestions en fonction de ma cuisine. Alors, pour ce qui me concerne, vous l'avez déjà dit, dans les poivriers que je mets sur les tables, je mets du malabar. Parce que c'est un peu le poivre, j'allais dire mon poivre à tout faire, mais c'est pas du tout péjoratif hein, comme expression. C'est un poivre qui va sur beaucoup de plats et qui a bien ce goût de poivre que les gens recherchent quand ils ne sont pas forcément connaisseurs de toutes les variétés et qui est excellent, bien sûr, sous réserve qu'on le mette dans un moulin et qu'il soit moulu sur place.
Oui, parce qu'il faut, c'est un conseil, c'est qu'il faut éviter de consommer du poivre moulu, il faut toujours le moudre au dernier moment pour qu'il développe pleinement ses arômes. Le poivre inspire un plat, Frédéric Triquet, ou le plat appelle un poivre particulier?
Alors, je dirais un peu les deux. Ça dépend quel angle vous prenez pour votre cuisine. Alors, par exemple, moi, j'utilise le poivre sauvage de Madagascar sur du foie gras. parce que je trouve que le parfum délicat de ce poivre ne dénature pas le goût du poivre, du foie gras, et inversement. C'est-à-dire, je n'aime pas avoir des parfums ou des saveurs qui viennent surpasser le produit que l'on va cuisiner. Et je trouve que l'intérêt des poivres, justement, quand ils sont de qualité, c'est qu'ils peuvent apporter une touche très subtile à un plat. Alors moi, j'aime bien le foie gras pour ce qu'il est, c'est-à-dire avec son goût de foie gras, je ne mets pas d'alcool, je ne le couvre pas d'épices, mais la petite touche de poivre sauvage de Madagascar, à la fois dans sa préparation et ensuite à l'assiette, donne un parfum un peu boisé, fruité, qui sert très bien, je trouve, le foie gras.
Bah d'ailleurs, vous nous avez donné la recette de ce foie gras au poivre sauvage de Madagascar, suivi d'une pavlova aux agrumes, poudre d'agrumes et poivre timut. Alors, poivre timut n'est pas un vrai poivre, nous avons compris, mais cela dit, merci beaucoup pour ces deux recettes et merci pour votre témoignage sur les poivres. Frédéric Triquet, Sylvie Jobin-Lemoyle, Frédéric Triquet met donc du poivre sauvage de Madagascar sur son foie gras. C'est un poivre très accessible, je crois, le poivre sauvage de Madagascar.
Oui, le poivre sauvage de Madagascar, c'est un vrai piper, mais c'est pas un piper nigrum, c'est une autre espèce végétale. Oui, je suis désolée.
C'est compliqué.
Mais c'est une autre espèce végétale, mais ça reste un piper, donc un véritable poivre. Et effectivement, c'est souvent, enfin je le vois bien au magasin, c'est souvent le poivre par lequel les gens commencent. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop marqué, il n'est pas trop piquant, et donc ça rassure les gens, parce que souvent... Enfin, vu le travail des industriels les dizaines d'années précédentes, on a un poivre tellement mauvais sur les tables et dans les commerces que les gens associent poivre avec piquant, avec éternuement, etc., etc. Et donc, pour rassurer et pour que les gens puissent refaire le premier pas dans le monde du poivre, le poivre sauvage de Madagascar est un bon compromis. C'est pas un piper nigrum, mais ça permet d'avoir un bon parfum, tranquille, accessible.
Voilà. Si on a un que vous donneriez en priorité, je sais pas, le poivre Nilamundi qui est à grande réputation.
Oui, le poivre Nilamundi parce que c'était le premier de ces variétés botaniques et qui a un côté très très élégant, très minéral, un peu végétal et avec les petits légumes de printemps, les petits pois, les asperges qui vont arriver dans quelques semaines, c'est vraiment un petit peu le chouchou. Moi le poivre de Madagascar, je le trouve sauvage. Je trouve assez hyper intéressant, mais assez fort aussi. Ce que je trouve incroyable dans le goût du poivre, c'est que ça va apporter une profondeur au plat et va être catalyseur de saveur. C'est-à-dire que contrairement au piment, qui va tendance à avoir effacé parfois les goûts, si on est sur des piments forts, le poivre va apporter une espèce de point final qui va faire que toutes les autres saveurs du plat vont remonter, catalyseur de saveur quelque part.
Point final parce que le poivre ne résiste, je crois, que 8 minutes à une température supérieure à 45 degrés, donc on poivre en fin de plat, en fin de cuisson. Ouais. Hein.
Alors surtout moulu au dernier moment. Après, parce que les parfums sont très évanescents. Après, moi, je n'hésite pas. Je suis pas cuisinière, mais des fois j'y vais en début de cuisson sur les poivres. Faut pas être trop compliqué non plus.
Allez, ne soyons pas trop compliqués. Merci beaucoup à toutes les deux. Il y a plein de recettes aussi dans le livre de Sylvie Jobin-Moyle. Et sur le site, vous retrouverez la chronique des bonnes graines d'Adrien Henrier en partenariat avec l'Académie du Climat. Il fait le point cette semaine, Adrien, sur les bons usages du poivre et notamment sur le poivre bio qui est important. Épices à ma guise, c'est à Anceny. Épices Rollinger, c'est 3 adresses à Cancale, à Saint-Malo et à Paris. Un grand merci à toutes les deux d'être venues nous parler de vos poivres aujourd'hui. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Seam Boutata à la préparation, June Loper à la réalisation et notre technicien du jour, Olivier Arnay. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.